C'est Noël. Il est tout proche, c'est tout proche Noël, hein. Vous avez préparé vos cadeaux peut-être. Pour ceux qui en ont les moyens, ils ont fait chauffer les cartes bleues, ils ont effeuillé les carnets de chèques. Ça marche. Bon. On a vidé les porte-monnaies. C'est pas le moment de faire des économies. Et oui, c'est pas le moment non plus de faire des économies d'énergie. On voit que dans les villes, tout est illuminé, les rues, les boutiques, les maisons, même dans la campagne, quand on passe, qu'il y a des maisons, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que pour certains Noël, ça sera la fête à Bacchus et à Gargantua. C'est-à-dire que ils mangeront et boiront plus qu'il n'en est raisonnable. Certains chercheront à se réjouir parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la joie que Jésus donne. Ils ne connaissent pas la paix que Jésus donne. Mais vous, vous savez. Et vous savez ce que c'est Noël. Parce que ça fait 3 dimanches que les prédicateurs en ont parlé, et même les enfants encore dimanche dernier. Hein? Ils vous ont tout dit. Alors là, aujourd'hui, je vais essayer de vous dire le reste. Nous pourrions commencer par nous poser une question. Mais que s'est-il passé dans le ciel pour que Jésus en arrive à naître à Bethléem? Alors moi, je ne vais pas vous raconter une histoire, je ne vais pas vous raconter un conte, je ne vais pas vous raconter un scénario sorti de mon imagination. C'est vrai qu'à une question de ce genre, l'humain ne peut pas répondre. Mais la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, elle nous révèle, elle lève le voile sur ce qui s'est passé dans le ciel avant la naissance du Seigneur Jésus. La naissance de Jésus. Jésus, d'abord, c'est le nom choisi par Dieu. À Bethléem, c'est le lieu choisi par Dieu. Tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Il y a eu dans le ciel une résolution. Il y a eu dans le ciel une prise de décision concernant la venue du Seigneur Jésus, du Sauveur, parmi les hommes. Alors, venez avec moi, je vous emmène dans le ciel. On va aller voir ce qui s'est passé. Alors nous allons dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 1er. L'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 1er. Je vous le lis en français courant. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année indéfiniment? Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs fautes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché, et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler leurs péchés, année après année. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Bon, j'ouvre la parenthèse, hein, pas plus que nos bonnes œuvres, bien évidemment que nos actions. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu m'as préparé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, « Je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint-Livre. Je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Or, ce texte nous révèle bien sûr plusieurs choses. Que d'abord, malgré la révolte de sa créature, malgré la déchéance à cause du péché, Dieu, dans son amour, n'a pas abdiqué. Il veut offrir à chacun, par pure grâce, par pur amour, un salut gratuit. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Or, ce texte nous révèle aussi qu'il est décidé à tout pour sauver les humains, même jusqu'à donner ce qui est le plus cher, son Fils unique. Ce texte nous révèle que le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés, mais ne les effaçait pas. Ce texte nous révèle que la loi donnée à Israël n'était qu'une étape pour l'accomplissement de sa volonté qui était de nous conduire à Christ et de purifier les pécheurs que nous sommes par le sang de Christ. Ce texte nous révèle que les prophètes de l'Ancienne Alliance, poussés par le Saint-Esprit, avaient déjà annoncé le plan divin. Ce texte nous révèle la motivation du Fils de Dieu. En ce qui concerne sa venue sur la terre, il nous aimait et avait le désir suprême d'accomplir la volonté de Dieu. Quel merveilleux exemple que celui du Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur. Christ est notre modèle, toute sa vie pour nous un exemple parfait. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Fils de Dieu, dans la gloire du ciel, il entendait les chants des anges, il entendait les louanges des anges. Il vient sur terre, qu'est-ce qu'il va entendre ? Les blasphèmes, la moquerie. Il va voir l'incrédulité des pécheurs. Alors il se dépouille de sa gloire, lui qui était dans les cieux d'une beauté parfaite, lui qui est la parole de Dieu, il est là dans une mangeoire pour les bêtes, avec la fragilité d'un bébé des plus ordinaires, il se met au rang, au dernier rang de la société, au niveau de sa naissance. Je pense que nous l'avons réalisé. Le prophète Ésaïe avait prophétisé, vous connaissez très bien ce passage, Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous vous rendez compte ? Quel abaissement, quel renoncement, quelle humilité, notre Seigneur. Or, bien sûr, dans sa vie, déjà à l'âge de 12 ans, il a à cœur de faire la volonté de Dieu et de s'occuper des affaires de son Père. Il dira plus tard, dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et pendant son ministère, on remarque qu'il vivra dans une étroite communion avec son Père pour faire sa volonté. Il dira d'ailleurs, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils le fait pareillement. Il a parfaitement accompli le plan divin. Il a fait le bien partout où il est passé. Il a prêché l'Évangile, il a nourri des foules, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a fait la volonté de Dieu, il a connu la fatigue, la faim, la soif et de terribles souffrances pour nous sauver. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané, dans une lutte terrible contre les puissances infernales, qu'il est en agonie, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et il priera de cette manière, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il fait le sacrifice encore de sa volonté. Et vous savez, bien sûr, qu'il va finir sa vie, son existence terrestre sur une croix, là où il prend notre place, la place que nous méritons. Gloire au Seigneur. Eh bien, il se met encore là, au dernier rang de la société. Il est mis au rang des malfaiteurs. Enfin, vous connaissez sa dernière parole, bien sûr. Tout est accompli. Autrement dit, les Écritures sont accomplies. La volonté du Père est accomplie à la perfection. Il a expié nos péchés en mourant sur le bois. Il a payé le prix et son sang versé nous donne vie. Gloire au Seigneur. Alors, sous la loi, Dieu avait trouvé un homme, il avait trouvé David, et il l'avait établi roi d'Israël. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Le problème, c'est que David a péché, il n'a pas toujours, bien sûr, accompli la volonté de Dieu. Mais sous la grâce, Dieu nous a offert son Fils, l'homme nouveau, l'homme parfait, l'homme selon le cœur du Père. Amen. À la perfection. Celui qui a accompli toute la volonté de Dieu sans commettre de péché. Alors pourrions peut-être pendant quelques instants parler de la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Oh, je ne serai pas complet, on va effleurer le sujet. Hein. Bien sûr. Toute la vie d'un enfant de Dieu devrait tendre à accomplir la volonté de Dieu. Toute la vie d'un enfant de Dieu devrait tendre à accomplir la volonté du Père. C'est vrai que dans la prière modèle que Jésus nous a donnée, le Notre Père, vous savez qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or bien des gens récitent cette prière en oubliant qu'ils sont sur la terre. Ils oublient qu'ils sont sur la terre et que par leurs paroles, ils expriment le désir que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Alors c'est vrai, quand on parle de la volonté de Dieu, certains tombent dans le déséquilibre. On compte quelquefois des choses comme ça. Ils oublient que Dieu les a créés avec une intelligence et qu'ils ont le droit de s'en servir. Alors juste un exemple, un jour on faisait une visite, et à la sortie de cette visite, on dit à la personne, vous allez avoir votre repas à préparer, hein, bien sûr. Et la personne de dire, mais il n'y a pas d'urgence, vous savez, le Seigneur ne m'a pas encore montré ce que je devais manger à midi. Oh, je ne fais pas de commentaire. Hein. J'arrête là. Pour d'autres, cela se limite à avoir une révélation particulière seulement pour les grandes occasions de la vie. Mais ils n'ont que faire de ce que Dieu dit dans sa parole pour leur vie journalière. Alors ça, c'est dommage. Certains s'inquiètent de la volonté de Dieu quand ils vont acheter une maison. Ah oui, quand ils vont acheter une auto. Puis certains, c'est quand ils vont se marier. Ah ben, bien sûr. Eh oui, c'est comme ça. Alors, j'ai entendu, moi, des lamentations. Dieu ne me parle pas à moi. Dieu ne me parle pas à moi. Alors on a vu certains essayer de provoquer les circonstances pour connaître la volonté de Dieu. Hein? Et c'est de provoquer les circonstances. Alors, s'il met son jean à trous dimanche, je saurais que c'est lui que le Seigneur m'a réservé comme mari. Eh ben, alors c'est comme ça que quelquefois après, le foyer, il tombe dans l'abîme, il tombe dans un grand trou. Dieu parle, mais il ne parle pas toujours. Et même quand il parle, quelquefois, on n'y prête pas attention. Vous connaissez, bien sûr, enfin beaucoup ici connaissent ce passage de Job 33, verset 14, Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors Dieu leur donne des avertissements. Mais c'est vrai que Dieu parle toujours par sa parole, elle est là toujours à notre disposition. Mais bien sûr, si nous l'ouvrons une fois par semaine, si nous nourrissons de la bonne parole de Dieu une fois par semaine, on ne va pas tarder à être malade spirituellement. Hein. On va être dans une faiblesse extrême. Nous avons besoin de nous nourrir chaque jour de cette parole. Et à travers cette parole, et même quelquefois des textes qui vont vous étonner, le Seigneur va nous parler. Alors, bien sûr, il serait dommage de ne vouloir connaître de la parole que ce qu'on a envie de pratiquer. Alors, dans ce cas, notre volonté, la volonté du vieux moi, en quelque sorte, elle vient interférer avec la volonté de Dieu, avec la volonté divine. En quelque sorte, on fait son marché dans la parole. On fait comme on va au supermarché, vous savez, avec son caddie, on prend ce qu'on a envie, on le met dedans. Dieu attend de nous que sa volonté, sa parole, soit prioritaire dans nos vies, qu'elle fasse autorité dans notre existence de tous les jours. On peut remarquer ce qu'un homme droit comme Job a dit. Job 23, 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Eh oui, il y a une victoire à remporter, hein. Nous avons besoin de vivre ces choses. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, là. Une expérience. Il y a déjà quelques années, bon, disons un certain temps, j'avais les cheveux d'une autre couleur. Pendant une réunion de jeûne et de prière, Dieu m'a parlé. J'en parle très humblement, vous savez, je ne mérite rien. Ce n'était pas par mérite, loin s'en faut. Sa voix résonnait en moi. Je ne peux pas vous la décrire. Je crois que les mots sont trop faibles. Une telle puissance, un tel amour, telle force. Je peux pas dire, ça s'explique pas, c'est pas facile. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est ta timidité. Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est ta timidité. Oh non Seigneur, c'est toi que j'aime. Ah c'est facile à dire, hein. C'est facile à chanter même, reçois mon amour. Oh là, comme c'est facile. Comme c'est facile. Mais attendez. Ce que le Seigneur attendait de moi, c'est que j'élève la voix dans l'église. Et que j'apporte la parole. Eh bien, c'était l'Everest pour moi. C'était l'Everest. Mais gloire au Seigneur, comme quelqu'un l'a dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors, une remarque, quand même. C'est que la volonté de Dieu ne nous conduit pas souvent à faire ce que notre chair aime le plus. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. Alors, pourquoi donc nous discernons si difficilement la volonté de Dieu pour l'orientation de notre vie? Bon, on peut dire que d'abord Dieu est infiniment grand et puis nous infiniment petits hein, dans cet univers, c'est certain. Mais il nous aime quand même. Bon, d'abord, Dieu est saint, parfaitement saint, saint et l'éternel. On utilise quelquefois d'ailleurs un raccourci arithmétique en disant, parlant du Dieu trois fois saint. Mais c'est pas écrit dans la Bible, hein, trois fois saint. Saint, saint, saint et l'éternel. Ça serait plutôt, bien que c'est encore trop limité, à la puissance 3, sa sainteté. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Ésaïe 55, verset 8, vous connaissez aussi ce passage. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu appartiennent à une autre dimension, bien sûr, tellement plus élevée que les nôtres, que celles de la terre, et ce n'est que dans la communion du Seigneur que sa pensée va nous être révélée. Elle nous est révélée par l'Esprit, et on remarque quand même que notre Père aime à se révéler à ses enfants. Il aime à se révéler aux hommes de foi, vous voyez. On remarque par exemple, quand Dieu a détruit Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'il dit ? Genèse 18, 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu aime à se révéler aux hommes de foi. Et aux femmes, bien sûr, de foi. Je me souviens d'un ancien chant, pardonnez-moi, bon, je les ai toujours en mémoire ceux-là, bon, c'est pas ma faute. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre, et je crois que celui qui a écrit ce chant avait dû faire une expérience, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, Seigneur, j'ai soif. Parle, Seigneur, je n'ai qu'un désir. Amen. Est-ce que vous avez ce désir ? Que le Seigneur vous conduise, vous parle, vous éclaire. Bon, d'abord, lisez la parole, nourrissez-vous de la parole. Et tenez-vous dans la prière, dans la communion du Seigneur. Il parle. Il parle à ceux qui sont à l'écoute. Si nous avons le désir de discerner la volonté de Dieu dans le but de lui obéir, nous aurons le secours du Saint-Esprit. Nous aurons le secours du Saint-Esprit. Mais, nous allons toujours retrouver sur notre route nos trois ennemis. La chair, le monde, et puis le diable, notre adversaire. Alors, notre chair, c'est vrai qu'elle ne nous aide pas en la matière. On lit dans Ézéchiel, par exemple, que Dieu dit au prince de Tyr, toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça vous est peut-être arrivé, ça m'est certainement arrivé. Hein. Soyons humbles en la matière. C'est quelquefois trompé. Galates 5, 17, un passage que vous connaissez aussi. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, c'est le vieux moi, hein. C'est le corps et l'âme, sans l'esprit, bien sûr. La volonté de la chair, c'est la fausse liberté. La volonté du vieux moi, c'est la fausse liberté. La vraie liberté, elle consiste à se soumettre au Seigneur et à désirer faire la volonté de Dieu. C'est ça, la vraie liberté. Dieu veut notre bonheur présent et éternel. Il veut notre bonheur éternel. Amen. Ça vaut le coup de se soumettre à sa volonté, non ? Vous trouvez pas ? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que notre chair... Bon, vous ne lapidez pas à la sortie, hein ? Promis. Notre chair, peut-être, le vendredi soir, à l'heure de la prière, c'est ce qu'elle dit. Oh, t'es rien bien ici dans ton petit canapé, devant ta petite télé. Tu vois pas le temps qu'il fait dehors, il y a un lion dehors, tu vas pas sortir. Reste là, tranquille. Bon, laisse tes frères, il y a quelques frères, ils sont pas beaucoup, mais qui essayent de lutter, qui prient pour les malades. Reste chez toi, reste tranquille. Notre chair va nous pousser à ça. Hein. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que nous puissions nous assembler avec nos frères et sœurs pour combattre. Alors si vous avez des problèmes, si vous êtes malade, venez à la réunion de prière, on va prier pour vous. Puis si vous êtes en pleine santé, ben venez à la réunion de prière, parce que les frères et sœurs ont besoin de vous pour prier pour eux. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, priez les uns pour les autres. Alors je vais vous dire encore un truc, j'ai vu dans Paris-Normandie, le 5 décembre. Oh, c'est un tout petit article. En Malaisie, 6 musulmans ont été condamnés à un mois de prison, dites-donc. Et vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils n'étaient pas allés à la prière du vendredi. Alors ici, non, ça ne se passe pas comme ça, hein, bien sûr que non. Rassurez-vous, rassurez-vous. Mais la volonté de Dieu, c'est que son peuple s'assemble pour combattre. Et je crois que le vendredi soir, excusez-moi de le dire, il n'y a pas assez de combattants. Alors si vous avez la possibilité de venir, venez. Le Seigneur désire que vous soyez là. C'est sa volonté. Alors, un autre, bien sûr, un autre ennemi, c'est le monde. Le monde et son esprit, il y a un des obstacles, d'ailleurs, c'est un des obstacles pour nous empêcher de discerner la volonté de Dieu. C'est la conformité au monde. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'esprit du monde. Il faut que nous soyons pleinement conscients. Et l'esprit du monde, c'est pas seulement la méchanceté, hein, c'est aussi toutes les distractions qu'il peut offrir et tout un tas de choses. C'est beaucoup plus vicieux que cela. Alors quand il y a l'esprit du monde, il se retire. Et c'est grave. Pour une assemblée, c'est grave pour un enfant de Dieu. Quand on vit avec les mêmes buts que ceux du monde, quand on a les mêmes objectifs terrestres, quand on se distrait aux mêmes citernes crevassées, quand on passe son temps à regarder les mêmes programmes et admirer les mêmes artistes, ben, imperceptiblement, notre intelligence, nos pensées se mettent à fonctionner selon le modèle de ce monde. L'esprit du monde est entré par la fenêtre. Mettons-le dehors. Mettons-le dehors. Que le Seigneur nous éclaire. Enfin, il y a notre adversaire. Peut-être pas que je parle trop longtemps non plus. Non, ça va. Je peux encore. Notre adversaire qui cherche à nous embrouiller toujours. Ses desseins consistent à nous détourner de Dieu et de sa volonté, nous emmener sur un chemin contraire. Sa technique, elle est vieille comme le monde. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors, de chers enfants de Dieu, vous savez, à qui le Seigneur avait montré la voie, ils sont arrivés avec les années qui passent, à douter même de leur salut. Quel drame. À douter même des promesses que le Seigneur leur avait faites personnellement. À douter de la direction que le Seigneur leur avait indiquée. Résistons-lui avec une foi ferme, nous dit la parole de Dieu. Alors, quand on lit le récit de Noël, on voit que Marie et Joseph ont accompli la volonté de Dieu. Ils ne comprenaient que peu de choses au plan de Dieu. Je crois que Marie et Joseph comprenaient grand-chose au plan de Dieu, vraiment. Mais Marie, elle finit par dire, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors nous, on voudrait quelquefois tout comprendre. On voudrait comprendre pourquoi le Seigneur nous demande ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le Seigneur nous demande de nous soumettre à sa volonté, en toute simplicité. J'ai pris mon dictionnaire l'autre jour, je dis, tiens, christianisme, je vais regarder ce qui est écrit. C'est écrit dans mon petit dico, religion chrétienne. Ah bon? Ah bon? Alors moi j'ai une autre définition. C'est avant tout, pour moi, le christianisme, la connaissance d'une personne. C'est la connaissance de Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé, je ne sais pas. Et cela consiste à croire en cette personne, en ce qu'il est, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, et à nous soumettre à sa volonté. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vais quand même arriver plus vers la fin quand même. Faut-il le redire ? Noël, c'est l'annonce de la bonne nouvelle au berger. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Combien de nos contemporains vont fêter Noël dans cette pensée? Combien de nos contemporains vont fêter Noël dans cette pensée? Combien vont se souvenir de Jésus-Christ? Vous savez, Dieu n'attend pas des humains un attendrissement devant une crèche, un sentiment religieux devant une représentation faite par les hommes. Dieu veut notre cœur. C'est sa volonté. Il y a plus de 2000 ans, il est né un sauveur. Il est né pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est né pour moi. Gloire à son nom. Alors, est-ce qu'il y aurait ici quelqu'un pour qui Jésus n'est qu'un personnage de l'histoire? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un au milieu de nous pour qui Jésus n'est qu'un personnage de l'histoire? Autrement dit, pour qui Jésus n'est pas son sauveur, n'est pas son libérateur, n'est pas son Seigneur. Comprends, mon ami, que Jésus est né pour toi, que sa mort sur la croix, c'est la mort volontaire pour toi, qu'il a pris ta place et que sa résurrection, c'est aussi pour toi. Sa volonté, c'est que tu sois pardonné de tes péchés et que tu sois sauvé. Jésus est venu pour ça et c'est offert. Alors, il te reste une chose à faire, à rentrer en toi-même, à réaliser que tu es pécheur et le Saint-Esprit t'y pousse, te pousse à la repentance et à te jeter repentant dans les bras de ton Sauveur. Il t'aime, il veut te sauver, fais-le maintenant. Eh bien, nous allons pouvoir nous recueillir quelques instants.